l'actualité des idées aujourd'hui, voyage au pays des bibliothèques avec notre invité, l'écrivain et académicien Éric Orsenna, qui publie chez Stock le fruit d'un rapport réalisé l'an passé pour le gouvernement sur le rapport des Français à la lecture, mais aussi et surtout sur ces lieux de vie que sont les biblis à préserver. Avec lui, il sera aussi question d'académie, de féminisation de la langue et de réforme de l'orthographe à retrouver à partir de 12h55. Mais d'abord, le silence en procès avec François Ozon, jamais là où on l'attend. Après Franz, le réalisateur revient avec Grâce à Dieu, grand prix du jury lors de la 69e cérémonie de la Berlinale qui vient de s'achever. Annoncé en salle demain, le film retrace la naissance de La Parole Libérée, une association créée par d'anciens scouts lyonnais, victimes d'actes pédophiles voulant briser le silence de l'Église. On en parle tout de suite avec François Ozon, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Et Prénat, c'était quand?
De 88 à 91. Ça fait 25 ans. Et j'attends depuis toujours ce moment que quelqu'un parle, que je puisse enfin tout raconter moi aussi.
Et tu te fais accompagner?
Comment ça?
Ben, je sais pas, tu vois un psy, ça peut aider. Hein.
Ah non, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait thérapie, hypnose, atelier de danse soufi.
Ah bon?
Non, le seul truc, en fait, qui m'aide, c'est le sport.
Je comprends. Ouais.
Ça me vide la tête. En tout cas, moi, je suis tout cœur avec vous. Je vais vous aider dans l'association pour que Prénat aille en prison, parce qu'il faut qu'il paye toutes les saloperies qu'il a faites. Et d'ailleurs, j'ai bossé pour Euronews, là, la chaîne d'info, il y a quelques années. J'ai gardé des contacts où je me disais, peut-être je peux les appeler, les mecs, tu vois, leur demander qu'ils fassent un sujet.
Mais pourquoi pas, ouais, c'est une bonne idée. Mais le plus important, c'est que t'ailles voir le capitaine Courtois pour faire ta déposition et est chargé de l'enquête. Et après, si tu pouvais écrire ton témoignage pour qu'on publie sur le site.
Pas de problème, je fais ça.
Super.
C'est bien de savoir qu'on n'est pas seul. Ça.
C'est important.
Ouais.
Un retour aux origines de l'affaire Prénat, prêtre pédophile qui officiait dans le diocèse de Lyon, soupçonné d'avoir abusé de dizaines de jeunes scouts entre 86 et 91. Des faits qu'il a en grande partie reconnus, mais qui sont pour la plupart prescrits. Au-delà de l'homme qui attend toujours son procès, c'est le silence de l'Église qui est mis en cause et sa passivité. Grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits, avait lâché Mgr Barbarin à Lourdes lors d'une conférence de presse de mars 2016. Grâce à Dieu, François Ozon en a fait un film. Bonjour François Ozon.
Bonjour.
Grâce à Dieu est autant présent dans les pages cinéma des journaux en ce moment que dans les rubriques judiciaires.
Hélas.
Avec deux recours visant à interdire la sortie du film en salle demain, l'un porté par le père Prénat, l'autre par la psychologue qui à la première recueillit la parole des victimes, Régine Maire, ex-membre du diocèse de Lyon. En ne changeant pas les noms des protagonistes, vous avez pris ce risque d'aller devant les tribunaux. Pourquoi ?
Je ne pensais pas que c'était un risque. Alors voilà, j'étais peut-être innocent, insouciant, et mes producteurs aussi, et les avocats aussi, parce que en fait, tout ce que je raconte par rapport aux personnes dont je garde les noms a déjà été publié, a déjà été raconté dans des documentaires, dans des reportages, dans un livre, le livre d'Isabelle de Golemin, la journaliste de La Croix. Donc tous ces faits-là étaient déjà connus. Il n'y a pas de révélation dans mon film par rapport à eux. Le vrai sujet de mon film, c'est la libération de la parole, et ce sont les victimes. C'est 95% du film. Donc non, je m'attendais pas à ça. Peut-être que si j'avais su que ça allait être aussi compliqué, que ça allait être un calvaire et un chemin de croix comme celui qu'on a vécu là ces derniers jours, peut-être j'aurais fait autrement. Mais en tout cas, là, j'assume. Et pour l'instant, la justice nous a donné raison, en tout cas par rapport aux demandes du père Prénat.
Oui, la sortie reste donc suspendue à cette seconde décision judiciaire attendue aujourd'hui à Lyon vers 17h. Hier, le TGI de Paris, vous l'évoquiez, vous a donné gain de cause sur le premier recours, celui du père Prénat. Qui avait été donc déposé par ses avocats. Vous avez accueilli cette décision en postant un extrait du film Sister Act avec Whoopi Goldberg et sa chorale. Alors on aurait pu attendre Oh Happy Day, mais vous avez choisi I Will Follow Him, où il est dit aussi dans cette chanson Keep Me Away From His Love. Pourquoi ?
C'est Denis Ménochet qui m'a envoyé cette vidéo pour me remonter le moral, et voilà, j'ai pas l'habitude d'utiliser Twitter. Là, j'étais obligé ces derniers temps parce qu'on était extrêmement sollicité, donc il faut envoyer des petits messages. Donc voilà, c'était un moment de joie que j'avais envie de partager avec les gens qui nous soutiennent.
Ce qui se joue actuellement, c'est une accélération du calendrier, outre les différents scandales et révélations. Ça ne s'arrête pas envers l'Église en ce moment. Il y a aussi tout simplement ce calendrier judiciaire dans cette affaire lyonnaise. Le cardinal Barbarin, dont le procès s'est ouvert en janvier, le procès du père Prénat, qui n'a pas encore débuté, dont on n'a pas encore la date. Vous travaillez toujours très vite, François Ozon, environ un film par an ou tous les deux ans. Là plus encore, en ayant connaissance de ce calendrier, est-ce qu'il y avait un sentiment d'urgence pour vous ?
Non. En fait, non. J'étais dans mon rythme habituel. Nous pensions tous que les procès, au moment où on tournait, allaient avoir lieu en 2018. Ils devaient, d'ailleurs. Le procès du cardinal Barbarin devait avoir lieu en avril 2018. On avait déjà commencé à tourner en février. Et après, on a appris qu'il était reporté en janvier. Nous nous attendions à ce que le verdict tombe avant le 20 février. En fait, il tombe le 7 mars. Et quant au procès du père Prénat, alors peut-être aussi de manière innocente, nous pensions qu'il allait avoir lieu avant de celui de Barbarin, puisque Barbarin et les cinq membres du diocèse de Lyon ont été attaqués pour non-dénonciation des faits de Prénat. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé dans cet imbroglio judiciaire. Je connaissais pas du tout le monde de la justice. J'ai appris beaucoup avec la promotion de ce film. Et je suis prêt à faire un film sur la justice très prochainement, je dois dire.
Voilà, ça sera le prochain. Effectivement, le cardinal Barbarin, dont on attend encore la décision, non-dénonciation, c'est-à-dire pour ses silences. Et de l'autre côté, le père Prénat, qui est lui poursuivi et mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs. C'est une matière délicate, hein, toutes ces affaires judiciaires. On le voit aussi en ce moment avec Intime Conviction. Le film d'Antoine Rimbaud avec Olivier Gourmet, qui était venu autour de cette grande table nous en parler et qui s'inspirait du second procès de Jacques Viguier, déjà sorti en salle et qui est en ce moment sous le coup d'une demande d'interdiction portée par l'ex-amant de Suzanne Viguier pour atteinte à sa vie privée. Il faut dire que dans le film, il y a des retranscriptions d'écoutes téléphoniques qui avaient été réalisées peu après la disparition de Suzanne Viguier et puis que son nom est resté inchangé. On revient juste rapidement, si vous le voulez bien, François Ozon, sur ce point-là. Vous avez effectivement choisi de changer le nom des victimes qui sont devenues à travers ça des personnages de fiction, tandis que vous n'avez pas choisi de changer le nom des responsables de l'Église ou du diocèse lyonnais.
Oui, parce que ce sont des noms publics, ce sont des personnes connues et tout ce qu'ils disent dans le film vient de verbatim qui ont été publiés, notamment la conférence de presse du cardinal Barbarin. Et donc, je me suis dit que c'était hypocrite de changer les noms, d'appeler le cardinal Barbarin, le cardinal Fricotin ou je sais pas quoi. Tous les journalistes m'auraient dit, mais alors pourquoi c'est tourné à Lyon? Voilà, aujourd'hui, tout est transparent. Et puis, je n'attaque absolument pas leur présomption d'innocence dans le film. Je respecte les faits, je respecte leurs paroles. Et après, j'ai pris la liberté pour les victimes. Absolument pas à leur demande, c'est moi qui ai pris ce parti pris de changer leur nom de famille, alors qu'ils étaient prêts à garder leur nom de famille dans le film, mais c'était par souci de l'intimité de leurs proches qui n'avaient jamais témoigné, notamment les enfants, certains sont mineurs, les parents, les frères et sœurs. Voilà, donc j'ai voulu préserver l'entourage en fait des victimes, c'est pour ça que j'ai décidé de garder que leur prénom.
Et il y avait aussi chez eux, vous l'avez raconté, une envie de fiction. C'est-à-dire que vous avez quand même hésité à faire un documentaire, fois que les faits étaient quand même établis.
Et moi, le désir de fiction aussi, ouais. C'est ce qui me vient en premier. Mais c'est vrai que quand je les ai rencontrés, j'ai tellement aimé les personnes que j'ai rencontrées, je me suis dit, mais je vais les filmer telles qu'elles sont. Donc, je vais faire un documentaire, ce que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. Donc, en même temps, moi, ça me posait des questions, parce que je me dis, comment je vais faire? Et puis, très vite, j'ai réalisé que ce que les victimes m'avaient dit en face, ils n'avaient pas forcément envie de le dire devant une caméra, notamment tous leurs proches. Donc on est parti vers la fiction de manière assez naturelle.
Ils sont des héros de cinéma, des figures de cinéma pour vous?
Oui, c'est Swann Arlo qui l'a formulé là dernièrement et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Il a dit, on pensait que nous jouions des victimes et on s'est rendu compte que nous jouions des héros. Et c'est vrai que moi quand même, en découvrant leur parcours, après la longue enquête que j'ai faite, je me suis rendu compte, c'est vrai que tout ce qu'ils ont fait bouger, toute l'énergie qu'ils ont mis dans leur combat, c'est assez héroïque. Donc le film leur rend hommage d'une certaine manière.
Grâce à Dieu. Extrait avec Swann Arlo.
Il faut que je leur écrive.
Attends un peu.
Aujourd'hui, je suis passé chez ma mère afin de récupérer des affaires et c'est là qu'elle me montre les articles de 20 minutes et du Progrès. Tout comme vous, j'étais victime entre 1988 et 1991 de ce prêtre, le père Bernard Prénat. J'ai à disposition des photos du voyage en Irlande où ma mère était accompagnatrice et à qui j'ai avoué ce que j'ai subi seulement après avoir eu 17 ans. Ma mère va alors louer un appartement boulevard de Provence, face à cette fameuse église que je pourrais décrire dans les moindres détails.
Ah ben là, c'était en Irlande.
L'émotion est tellement forte que j'ai pas encore regardé votre site. Je sentais le besoin de directement cliquer sur contact.
Pour lutter contre le silence, François Ozon, il y a la parole. Et cette parole, on l'entend, on le voit dans votre film, à l'écran, elle est d'abord étranglée, hésitante, tâtonnante, avant de s'affirmer. Il s'agissait pas seulement de parler pour eux, mais aussi de se faire entendre.
Oui, c'était l'enjeu du film, mettre en scène la parole et diverses paroles, des paroles de mail, des paroles de lettres, de paroles orales. C'était vraiment l'enjeu de ce film. Alors c'était en même temps très, c'était un vrai défi pour moi parce que je me disais il y a tellement de paroles dans ce film, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à raconter, tellement de choses qui n'ont pas été entendues, qu'il fallait voilà mettre en scène cette parole, être au service de cette parole. C'était ça vraiment le but que je me suis fixé, faire en sorte que le spectateur ne soit pas noyé par toutes ces paroles, mais qu'il entende distinctement tout ce qui devait être dit.
C'est une toute autre parole qu'il a mise en scène, mais étonnamment, votre film m'a évoqué le sien. Devant la caméra de Wim Wenders, le pape François, sorti de ses allocutions ou des conférences de presse qu'il donne au sol ou dans les avions, accorde assez peu d'entretien, voire pas. Et dans ce film-là que Wim Wenders a réalisé, on comprend que sa parole qui se fait rare prend sens. Il parlait de la tolérance zéro devant la pédophilie, il parlait de retirer les fonctions sacerdotales aux prêtres coupables de tels actes. Wim Wenders a tenté de mettre aussi cette parole-là contre le silence en image. Est-ce que vous avez le sentiment, François Ozon, que la caméra se prête à la confession, que le cinéma est un bon médiateur, une bonne médiation ?
Je me suis jamais posé la question de cette manière. J'ai pas vu le film de Wim Wenders. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la parole des autorités ecclésiastiques sont toujours très belles, mais il n'y a pas d'acte. Donc les choses sont en train de changer. Je crois qu'il y a une prise de conscience très importante. Le pape organise une réunion autour de la pédophilie au Vatican à partir de jeudi. Voilà, les choses commencent à se briser. Le silence commence à se briser et les prises de conscience commencent à exister. Donc je me souviens plus de votre question. C'était pas ça exactement.
Non, c'était sur la caméra et la confession. Ce qui peut se livrer devant une caméra qu'on ne trouverait peut-être pas ailleurs. C'est intéressant parce que vous avez pensé aussi raconter cette histoire sur les planches.
Oui.
En faire une pièce de théâtre qui arrivera d'ailleurs peut-être. C'est aussi une question qui s'était posée pour Les Chatouilles, qui a été d'abord pièce de théâtre, ensuite film sur les abus sexuels qui avaient pu être vécus.
C'est-à-dire que le théâtre, c'est l'art de la parole. Donc c'est vrai que comme j'avais énormément de paroles, je me suis dit ça peut. J'ai écrit d'ailleurs une version théâtralisée du scénario. Mais la caméra, oui, la caméra, je dirais qu'elle vole. Plutôt. Elle vole des émotions, des sensations, et c'est pas forcément les paroles qui sont les plus importantes au cinéma. Donc c'est pour ça que la difficulté de la mise en scène, elle était là, faire entendre cette parole et pas être souvent comme dans les films d'Éric Rohmer où la parole et les actes se contredisent. Là, il fallait montrer que souvent, en tout cas du point de vue des victimes, les actes suivaient les paroles, au contraire de la hiérarchie de l'Église.
Alors comment vous avez pensé cette mise en scène et cette mise en image de ces silences et de cette parole ? Vous faites alterner trois récits principalement, avec un passage de relais. Vous ouvrez avec le parcours d'Alexandre, puis le cas de François, dont la mère avait écrit pour dénoncer à l'époque les agissements de l'Église. Et enfin, le témoignage, le parcours d'Emmanuel, le zèbre brisé, qu'on entendait incarné par Swann Harlow-Alexandre. C'est un profil plus particulier, c'est lui qui est à l'origine de toute cette affaire, des premières révélations. Il est catholique, croyant, il est très entouré par sa famille. Au début, il espère que cette affaire se réglera en interne. Il estime que c'est un procès que l'Église doit se faire à elle-même, sortir de ce silence-là avant de le mettre sur le terrain judiciaire.
Oui, c'est vrai que le personnage d'Alexandre, c'est le personnage qui m'a le plus ému au départ, le témoignage qui m'a le plus touché, parce qu'il est un fervent catholique et qu'il croit à l'institution. C'est ça que j'ai trouvé beau et que pendant 2 ans, il va, dans le respect de l'institution, faire tout pour que sa place de victime soit reconnue et surtout que ce prêtre soit destitué. Et au bout de 2 ans, il va se rendre compte que rien ne se passe et du coup, il va passer à la voie judiciaire. Et la mise en scène du film, c'est vraiment adapté à la personnalité des trois personnages. Donc au début, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez classique, assez respectueux qui correspond bien au personnage d'Alexandre. Après, le rythme du film se transforme avec le personnage de François qui est beaucoup plus rentre-dedans, qui met les pieds dans le plat. Donc le rythme du film s'accélère, on est plus dans un film d'action presque. Et dans la troisième partie, avec le personnage d'Emmanuel, on est plus dans le mélodrame, dans quelque chose plus presque de Fassbinderien, je dirais, où on est vraiment du côté de la victime qui est dans la souffrance et ça va vers le mélodrame.
Le premier, Alexandre questionne l'impact ou les conséquences sur la spiritualité aussi de ce qu'il a pu vivre à travers ça. Tandis que le dernier, Emmanuel, on sent qu'il est blessé à vie dans sa chair et qu'il ne se remet pas même physiquement de ce qu'il a pu vivre à ce moment-là.
Oui, le personnage d'Emmanuel est très touchant parce que, contrairement aux deux autres, il n'a pas réussi à vivre, je ne sais pas si c'est de la résilience, en tout cas à reconstruire par rapport aux souffrances qu'il a vécues. Il n'a pas créé de famille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas vraiment d'épouse avec qui il est installé, il n'a pas de travail. Donc c'est intéressant en contraste avec les deux autres qui ont réussi finalement à s'intégrer dans une vie sociale, montrer ce personnage qui essaye de survivre et grâce à l'association La Parole Libérée va trouver un sens à sa vie et va pouvoir renaître d'une certaine manière.
Et pourquoi avoir pensé ce crescendo, ce
chasse-croisé
d'histoire ?
Parce que c'est le réel. Je n'ai rien inventé en fait. C'est la réalité. C'était passage de relais, c'est la chronologie des faits. Et ce qui était fascinant dans cette histoire, c'est que le réel est un très bon scénariste. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais jamais osé inventer, mais qui venaient vraiment de la réalité, de ce qui s'était passé, de ce qu'ils m'ont confié. Et après, j'ai fait des liens forcément, j'ai réuni certaines choses, j'ai fait des ellipses, mais globalement, le scénario a été écrit par la réalité.
On retourne dans Grâce à Dieu avec cet extrait et une discussion entre Melville Poupeau qui joue Alexandre et sa mère.
Les garçons étaient adorables.
Et Barbarin a fait un très beau serment.
Ouais, il a accepté de me rencontrer pour parler de Prénat.
Vraiment ?
Bah, vous savez que c'est important pour moi.
Ça fait plus de 30 ans, Alexandre.
Oui, bah, j'ai besoin de lui parler.
À quoi bon le déranger avec ces vieilles histoires ? Il n'était pas à Lyon à cette époque, il n'y est pour rien.
Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants.
Mais c'est devenu un vieillard inoffensif et sûrement malade.
Et alors, c'est pas une raison pour que l'Église ne fasse rien et ne le condamne pas ?
Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse aujourd'hui ? Ça ne sert plus à rien.
Barbarin pourrait le destituer. Ce sera un acte fort, symbolique, qui prouverait que l'Église est bien du côté des victimes et condamne la pédophilie. Vous en avez parlé à papa ?
Vaguement.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Que tu as toujours été doué pour remuer la merde.
Quand Prénat a été muté à Neulise en 91 et que je vous ai tout raconté, vous auriez pu agir, vous avez rien fait.
Tu avais déjà 17 ans.
Détourner le regard, c'est quand même la première des réactions. Il y a des cicatrices qu'il ne faut pas trop gratter, dit Régine Maire, la psychologue de l'Église, à Alexandre, là où son père, dans la voix relayée par sa mère, estime qu'il a toujours été doué pour remuer la merde. C'est le premier réflexe, celui de défendre l'institution, de défendre l'autorité, plutôt que de soutenir les victimes dans beaucoup de ces situations.
Tout le monde n'a pas agi de cette manière, mais c'est vrai que certaines personnes considèrent que l'institution est plus importante. Et ce qui est d'autant plus violent dans cette scène, c'est que c'est une mère qui préfère défendre l'institution face à la souffrance de son fils et qui ne comprend pas. Et qui pense surtout que le temps est passé. Elle dit, il y a plus de 30 ans. Donc c'était toutes ces choses-là qui m'intéressaient, montrer les répercussions au sein des familles de ce que c'est qu'un enfant abusé. Parce que voilà, quand un enfant est abusé, il faut savoir que toute la famille est touchée. Et alors il y a des membres de la famille qui préfèrent se préserver, qui préfèrent être dans le déni, et d'autres qui agissent, notamment les parents de François, qui en 91 ont compris, enfin ils ont su entendre la parole de leur enfant, parce que c'est très difficile aussi d'entendre la parole d'un enfant. Un enfant a du mal à formuler ce qu'il vit, parce qu'il est souvent dans un état de sidération par rapport à la blessure qu'il a vécue. Et donc les parents de François, eux, ont entendu et ont agi, puisqu'ils ont réussi à faire en sorte que le père Prénat arrête les camps scouts.
Monseigneur Pontier, qui est patron des évêques de France, dans le JDD ce week-end, disait il existe une vraie vénération de l'Église qui est parfois malsaine, estimant que justement il faudrait peut-être apprendre à entendre, apprendre à regarder autrement. Lyon, la ville, en prend un sacré coup quand même dans votre film, hein, capitale de l'Omerta, tant son diocèse y est influent. Vous avez tourné là-bas ?
J'ai tourné là-bas 4 jours. Par contre, nous avons pris la décision de tourner tous les intérieurs d'église à l'étranger, en Belgique et au Luxembourg pour pas avoir à demander les autorisations au diocèse de Lyon qui est dirigé par le cardinal Barbarin. Monseigneur Pontier, vous parlez de lui. Moi, j'ai été, je trouve que son interview dans le journal du dimanche est très révélateur toujours du problème de l'Église, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de dire nous n'avons pas su écouter les victimes. Enfin, il fait sa repentance, comme toujours. Et par ailleurs, on lui demande est-ce que vous voulez que ce film sorte? Et il dit non. Alors que mon film, justement, écoute les victimes. Et je pense que, voilà, on est dans tout le problème de l'Église aujourd'hui, où ils sont complètement tétanisés. Ils disent des bonnes paroles et toujours il y a des actes qui contredisent leurs paroles. Et les procès qui sont contre son film, ce film, vont dans cette direction. Et donc, cette communication absolument désastreuse de l'Église, je pense, fait beaucoup de mal aux fidèles, aux catholiques.
Est-ce que vous pensez que votre film changera quelque chose?
Alors, est-ce que le cinéma change le monde?
Eh ben, je vous propose d'écouter d'abord la réponse de Philippe Luret au moment de la sortie de Welcome.
J'étais pas du tout parti en faisant Welcome pour faire un énorme pamphlet sur la politique de Nicolas Sarkozy et de son ministre. Et le film nous a vraiment dépassés, puisque il a été question de revisiter cette loi, la L226, je crois, cet article qui était l'aide à personne en situation irrégulière, qui était condamnée de 5 ans de prison. Il est sorti des pages cinéma, des pages culture, pour rentrer dans les pages société. Alors on est tous très contents quand ça arrive à un film, parce que ça lui donne une exposition, mais je vous assure qu'il y a un moment où ça m'a fait peur. Parce qu'on m'a plus jamais parlé de cinéma, mais on n'a plus parlé que de ça. C'était très bien. Et finalement, quoi? Cet article de loi a jamais été abrogé. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Calais, c'est bien pire que ce qui se passait quand j'ai tourné Welcome. Voilà. Donc ça sert à rien, le cinéma.
Philippe Luret autour de Welcome et des migrants à Calais qui étaient au cœur de son film. Bon, alors on l'évoquait, votre film est entre les pages cinéma aujourd'hui et les pages judiciaires et non pas les pages société ou faits divers.
Non, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit. Non, moi je pense que ça sert et surtout ça sert peut-être rien. Ça sert peut-être pas par rapport au pouvoir, par rapport à l'État, mais ça sert par rapport aux gens qui ont vécu les drames de la pédophilie et je pense que ce film va libérer le silence. Il y a beaucoup de gens qui vont parler. Je le vois, on l'a vu déjà en faisant une tournée en province, où beaucoup de gens se confient, racontent leur histoire, des choses qu'ils n'avaient jamais dites avant. Et je pense que ce film peut donner du courage. Donc c'est à cet endroit-là où je pense que les choses peuvent bouger. Après, l'État, l'Église, on espère. Mais bon, ça c'est plus difficile.
Il y a quelques précédents, dont Spotlight. L'affiche du film américain, d'ailleurs, se retrouve dans votre film à vous, François Ozon, grâce à Dieu, dans le commissariat. Il y a un parallèle entre l'enquête obstinée de ces journalistes du Boston Globe pour prouver les abus des prêtres du Massachusetts et le combat des membres de la parole libérée pour briser le silence. Est-ce que ça vous a influencé aussi, vous, dans votre narration, dans votre mise en scène?
Alors, ce qui est amusant par rapport à cette affiche de Spotlight, c'est pas du tout un hommage au film, même si
elle
je l'ai beaucoup apprécié.
Dans le commissariat.
Elle y était dans le commissariat. C'est l'avocate d'Emmanuel qui m'a raconté que quand ils ont fait la déposition et surtout quand il y a eu la confrontation entre Prena et Pierre-Emmanuel, elle a vu cette affiche et quand elle a vu cette affiche, elle s'est dit c'est bon signe pour nous, le commissaire de police est de notre côté. Et donc j'ai forcément suivi ce qu'elle m'avait raconté. Il y a beaucoup de détails comme ça dans le film que j'ai gardé de la réalité, comme par exemple l'affiche de Tintin en Congo dans la chambre personnelle du cardinal Barbarin. J'aurais jamais osé mettre voilà le poster de cet épisode de Tintin qui est quand même très politiquement incorrect, mais il se trouve qu'il y a des photos de sa chambre qui ont été publiées dans la presse où on voit qu'il est tintinophile.
Alors est-ce que Spotlight a eu des effets aux États-Unis?
Absolument.
Est-ce que l'on peut mesurer
je pense
et faire
que
un parallèle
justement,
avec grâce à Dieu?
Je pense que c'est ce qui fait peur à certaines personnes dans l'Église, c'est qu'il y a eu un effet Spotlight aux États-Unis. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, l'Église paye. Dédommage les victimes, ce n'est pas encore le cas en France. Alors est-ce qu'il y a une crainte qu'il se passe la même chose en France? Moi je pense surtout qu'il y a une crainte justement qu'il y ait une parole qui continue à se libérer parce qu'il y a encore beaucoup d'affaires qui sont là mais qui ne sont pas encore sorties et je pense que voilà, l'Église est un peu tétanisée par rapport à tout ce qui va bientôt sortir.
Quel est l'effet grâce à Dieu que vous souhaiteriez? Pour mettre les choses au clair et le dire simplement.
Moi, ce que j'espère, c'est que l'Église va prendre à bras le corps ce problème et qu'elle va essayer de se rénover. Enfin voilà, qu'elle prenne conscience. Moi, je pense que c'est une chance pour elle, si elle veut, voilà, être en contact encore avec des fidèles, si elle ne veut pas rester dans ce hors-sol. Mais est-ce qu'elle en est capable? Je ne sais pas.
C'est toute la question que soulève Alexandre aussi à travers son témoignage. Il veut pas simplement un pardon, il veut des actes.
Oui.
Il veut que ce prêtre soit mis à l'écart, tombe d'une certaine manière et qu'il lui soit retiré cette possibilité d'agir.
C'est-à-dire que oui, il voudrait une destitution, que ce prêtre soit défroqué, parce qu'il a l'impression en plus que là, l'Église aurait vraiment pris conscience de la gravité des faits. Mais pour l'instant, il y a eu un procès canonique qui a été lancé par le cardinal Barbarin, qui a été interrompu, qui a été relancé maintenant. Et voilà, pour l'instant, il n'y a toujours pas de date de procès pour Préna, et il n'y a toujours pas de destitution prévue. Alors, on a vu que le pape a défroqué dernièrement un évêque. Ça pourrait être le cas aussi pour Préna, mais ça n'a toujours pas eu lieu.
Ce n'est pas un film anti-clérical, vous ne bouffez pas du curé, comme on disait à l'époque. Votre éducation catholique vous a-t-elle préservé de cela, empêché de basculer dans la détestation, dans un manichéisme ?
Je pense pas que c'est... Enfin, mon éducation catholique m'a servi parce que je connais très bien ce milieu, mais je pense qu'en faisant mon enquête, je me suis rendu compte très vite que c'était pas blanc et noir, c'était pas les bons contre les méchants, c'était beaucoup plus complexe, qu'il y avait beaucoup d'humanité chez tous ces personnages, et j'ai essayé de montrer cette complexité, et puis j'ai essayé de montrer que voilà, toutes ces personnes qui travaillent au sein d'un diocèse étaient aussi victimes de l'institution, prisonnières de cette institution, et j'ai essayé de montrer, oui, leur part d'humanité.
Voilà, le film était parti, et on s'arrêtera là-dessus, d'une envie pour vous de montrer la faiblesse aussi des hommes,
la fragilité.
Leur fragilité. C'est pas pareil ?
Non, parce que de la fragilité, on peut faire de la force, je pense. Et je pense que c'est le cas de ces trois héros.
Et à ce film... Imaginez, rêvez, vous aviez trouvé déjà un titre, L'homme qui pleure.
Oui, au départ, c'était L'homme qui pleure.
J'aimerais bien le voir quand même un jour, ce film-là aussi.
Peut-être un jour.
Parce qu'il y a beaucoup de raisons pour des hommes de pleurer, non ?
Absolument.
Merci beaucoup à vous, François Ozon.
Merci.
Grâce à Dieu, En attendant sera en salle demain, sauf si, mais ça, nous le verrons bien. Merci à vous.